Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Le face-à-face au procès Nordal-Lelandais, l'accusé bousculé par la famille de Maëlys qui a raconté sa douleur et qui réclame des réponses. Emmanuel Macron, en médiateur au nom de l'Union européenne, est au Kremlin pour discuter avec Vladimir Poutine. Un tête-à-tête en ce moment même autour d'une table monumentale et d'un enjeu, l'Ukraine. Dans l'actualité encore, des taux de dioxine trop élevés autour du plus gros incinérateur d'Europe au sud de Paris. Le Sigcom qui le gère dénonce des biais scientifiques dans l'étude. Joe Rogan, vedette du podcast Antivax, Spotify le préfère toujours à Neil Young mais supprime 70 de ses émissions. Et puis une journée en argent aux Jeux Olympiques, deux médailles. On entendra Anaïs Chevalier-Boucher en biathlon et sur un petit nuage. Et au téléphone sonne Fabienne.
Et au téléphone sonne, vous êtes pour votre père, pour votre mère ou peut-être pour vous-même, très effrayé de ce que vous lisez sur Orpea et sur les EHPAD en général. Le premier réflexe, c'est de dire « moi, jamais, j'irai pas ». Sauf que, en vérité, est-ce qu'on a vraiment le choix quand vient la grande dépendance? Est-ce qu'il existe un plan B? Y a-t-il une alternative à l'EHPAD? Est-ce qu'elle est encore à créer? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il a donc fait face à la mère, au père et à la grande sœur de Maëlys. Le procès de Nordal-Lelandais aux assises de l'Isère à Grenoble est entré dans sa deuxième semaine et c'est la famille de l'enfant tué il y a 4 ans qui témoignait aujourd'hui. Mathilde Vinceneux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Grenoble, Mathilde, une famille qui raconte une vie brisée.
Oui, c'est sa mère, Jennifer, qui s'avance la première en robe rouge à la barre. Elle lit un texte et s'adresse à sa fille. Comment faire pour vivre sans toi, Maëlys? Elle se souvient de ce mariage, une fête de joie et d'amour où tout a basculé. Si j'avais su que c'était la dernière fois que je te serrais dans mes bras, le dernier bisou sur ta joue, je ne t'aurais jamais lâché. Jennifer raconte cette absence insupportable et elle parle de l'accusé. Il a tout foutu en l'air en un quart de seconde. Alors qu'on était heureux, puis c'est son ancien mari qui prend la parole, Joachim. Je suis un papa comme perdu en mer, qui tente de sortir la tête de l'eau. Joachim a perdu 25 kilos depuis cette nuit-là. Maëlys en pesait 28.
Et puis l'accusé a été bousculé, Mathilde, par la grande sœur de Maëlys.
Oui, Colline, tout juste 17 ans, tout en noir, elle parle de sa sœur, sa guerrière, son exemple. Je me sens seule, vraiment seule. Puis Colline hausse le ton, vous l'accusez, regardez-moi, la balade en voiture à 3h du matin, qui peut vous croire? Elle se plante face à lui, est-ce que vous avez violé ma sœur? Non, je n'ai pas violé votre sœur, souffle Nordal-Lelandais. Et pourquoi avoir attendu 6 mois pour nous dire où elle était? Ça a été très compliqué d'expliquer ce que j'avais fait, répond l'accusé. Il reste silencieux, la tête baissée, alors qu'une vidéo de Maëlys s'est projetée dans la salle d'audience. Une petite fille brune qui danse.
Mathilde Vinceneux en direct de Grenoble avec Georges Thau.
Emmanuel Macron espère donc amorcer la désescalade sur l'Ukraine.
Le président français s'entretient en ce moment même avec Vladimir Poutine à Moscou. Raisonnablement optimiste, disait-il avant le début de l'échange. Quant au président russe, il salue les efforts français pour résoudre la question de la sécurité en Europe. Deux présidents, d'un bout à l'autre, d'une table blanche immense. Notre envoyé spécial permanent à Moscou, Sylvain Tronchet, est au Kremlin.
Malgré la table monumentale en marbre blanc d'environ 10 mètres de long qui les sépare, distanciation sociale oblige ici au Kremlin, c'est une rencontre que l'on peut malgré tout qualifier d'intime qui réunit Emmanuel Macron et Vladimir Poutine actuellement. Les deux hommes sont en effet seuls, sans conseiller, sans cabinet, juste deux traducteurs, un format qui est supposé favoriser les discussions de fond, explique-t-on de part et d'autre, et les deux hommes l'ont dit l'un comme l'autre à leur arrivée, ils ont l'ambition, l'envie d'aller au fond des choses. Vladimir Poutine, qui a accueilli son hôte en lui disant qu'il appréciait les efforts que fait actuellement la France pour essayer de résoudre cette crise qui oppose la Russie à l'OTAN. Emmanuel Macron, qui l'a remercié pour son temps et l'accueil et qui a prononcé le mot que tout le monde attend ici, la désescalade. Le président français sait que la discussion sera ardue, mais les deux hommes ne se sont pas donné de limite de temps. Pour preuve, il est prévu qu'ils dînent et les échanges pourraient se poursuivre jusque tard dans la soirée. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Alors faut-il croire Vladimir Poutine et sa volonté de résoudre pacifiquement la crise ukrainienne? À Bruxelles, la Commission européenne reste sur ses gardes. Vera Jourova, la vice-présidente de la Commission, est plus que sceptique. Éric Biegala l'a rencontrée.
Responsable à la Commission de la défense des valeurs européennes, les droits fondamentaux, les libertés publiques, la liberté de la presse, Vera Jourova le constate, le face-à-face tendu entre Russie et Occidentaux autour de l'Ukraine a tout d'un retour de l'adversité. La Russie est bel et bien redevenue un ennemi.
La Russie fait montre d'un comportement hostile depuis des années. Et depuis des années, on constate une avalanche de désinformations diffusées par des sources pro-Kremlin.
D'origine tchèque, Vera Jourova a vu ce que c'est que de se retrouver envahi par les chars russes. C'était en 1968.
J'appartiens à ceux qui se souviennent des chars russes dans nos rues. J'avais 4 ans, mais je me souviens de ce qui a suivi, la soi-disant normalisation. Les troupes russes sont restées dans le pays pendant plus de 20 ans.
Actuellement, l'Europe ne discute que de possibles sanctions, sanctions économiques contre la Russie, si elle devait attaquer l'Ukraine. Pour la vice-présidente de la Commission, il faudra commencer par renoncer complètement au gazoduc Nord Stream 2.
Il est plus que temps que les Allemands regardent ce Nord Stream comme un outil géopolitique dans les mains de M. Poutine et il n'hésitera pas à l'utiliser contre l'Europe.
Parmi les autres sanctions, on envisage également d'empêcher la Russie de procéder à tout paiement international en euros.
Emmanuel Macron qui sera demain à Kiev voir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
À 19h et presque 7 minutes. Hélène, le nucléaire, thème de campagne cette semaine.
Emmanuel Macron est attendu à Belfort jeudi où se trouvent les turbines qu'EDF va racheter à General Electric, stratégique, surtout quand il est question de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. L'électricien doit confirmer l'opération en ce moment même en conseil d'administration, 7 ans après la vente. À l'époque, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, avait laissé Alstom vendre les turbines aux Américains. Aujourd'hui, le président, presque candidat, se félicitera de son retour. Bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Hélène.
Alors comment l'exécutif explique-t-il le virage, le contre-pied du président ?
Eh bien parce qu'on n'est plus en 2014, à l'époque du deal anti-nucléaire entre François Hollande et les Verts pour fermer des réacteurs. La donne a changé, insiste un conseiller, les prix de l'énergie flambent, il faut décarboner l'industrie avec des besoins qui vont aller crescendo avec l'essor de la voiture électrique. Il s'agit donc de réarmer le pays, explique l'Élysée, reprendre via EDF le contrôle d'une filière complète, construction de nouvelles centrales avec ces fameuses turbines Arabelle produite à Belfort, production et vente d'électricité au nom de l'indépendance énergétique, des accents gaulliens dont Olivier Marleix n'est pas dupe, le député LR a présidé la commission d'enquête sur la vente d'Alstom.
C'est vraiment le pyromane qui aujourd'hui se déguise en pompier. M. Macron a commis une lourde faute en 2014-2015 en laissant faire ce deal, en l'autorisant. Cocorico, j'ai sauvé les turbines Arabelle, oui, enfin qu'il avait lui-même vendu. J'ai appris que M. Macron était capable de tout, et d'ailleurs cet exercice montre qu'il est sans gêne, puisqu'il vient fanfaronner alors qu'il est à l'origine de ce désastre.
La visite d'Emmanuel Macron à Belfort jeudi, temps fort du plan France 2030, qui devient aussi plan 2022, plus immédiat, la campagne avec une relance du nucléaire de plus en plus consensuelle. Récemment, Bruno Le Maire a reçu la visite de son homologue saoudien, mécontent de voir la France détachée du pétrole et qui a prévenu, vous savez, tout ce qui est rare va devenir cher. Sous-entendu, ne vous étonnez pas si le baril flambe. De quoi nourrir l'argumentaire de l'exécutif jeudi pour expliquer sa volte-face sur le dossier EDF General Electric.
La presque campagne d'Emmanuel Macron qui a jusqu'au 4 mars pour se déclarer officiellement. Et en face, la bataille s'intensifie. À droite, Marine Le Pen se livre, parle d'elle pour se distinguer du discours guerrier d'Éric Zemmour. Lui-même s'efforce d'atténuer ses emportements. Les deux candidats espère convaincre les électeurs les plus à droite de LR. Mais Valérie Pécresse ne compte pas laisser faire la candidate LR, suivie à Champigny-sur-Marne aujourd'hui par Anne Souhaitement.
Merci, merci madame.
En déplacement dans le Val-de-Marne, Valérie Pécresse vient parler logement.
Bon, et la rénovation du quartier, ça vous parle ?
Dérouler ses propositions, construction de 500 000 logements par an, généralisation du prêt à taux zéro et rencontrer directement les Français, ce qu'on la voyait peu faire en début de campagne.
C'est important d'entendre la bouche des habitants qui veulent plus de sécurité.
Mais face à Éric Zemmour qui a pris des actions sarkozyste le week-end dernier, en remettant au goût du jour le travailler plus pour gagner plus de l'ancien président, Valérie Pécresse en profite pour contre-attaquer.
Les électeurs préféreront l'original à la copie. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai proposé sur le pouvoir d'achat 10% de hausse des salaires sur un quinquennat. La défiscalisation totale des heures supplémentaires en faisant sauter le plafond des 5 000 euros. Donc je suis contente que M. Zemmour vienne copier mes propositions. Ça prouve qu'en matière économique, la droite a un temps d'avance et que certains courent derrière.
Dans l'entourage de Valérie Pécresse, on va encore plus loin. Il faut ouvrir les yeux des Français. Face à un candidat qui engrange les soutiens à l'extrême droite, mais tente de polisser son discours, l'équipe Pécresse est passée à l'offensive, faisant circuler un document intitulé « Les sympathies nazies d'Éric Zemmour ». Ce n'est pas une équipe de campagne, c'est une milice, taclin très proche de la prétendante à l'Élysée, alors que plusieurs pontes de droite s'inquiètent d'un vote caché pour le polémiste.
Éric Zemmour, invité ce matin de la matinale spéciale présidentielle, qui affirme que 55% des étrangers extra-européens en âge de travailler sont inactifs. Ce n'est pas ce que disent les statistiques et c'est à lire sur franceinter.fr. On apprend ce soir que le téléphone d'Arnaud Montebourg a été lui aussi ciblé par le logiciel espion Pegasus. Information de la cellule investigation de Radio France à lire sur notre site. Alors que l'affaire Pegasus n'en finit pas de secouer Israël, un quotidien israélien révèle l'usage à grande échelle de cette technologie d'espionnage à l'intérieur même de ses frontières par la police. La liste des téléphones piratés publiée aujourd'hui par le journal Alice Froussard est à Jérusalem.
Des hommes politiques, des maires, des militants des droits de l'homme, des dirigeants d'une chaîne TV, des rédacteurs en chef, d'anciens directeurs généraux de ministères. D'après le quotidien israélien Kalkaliste, toutes ces personnes ont été espionnées par le logiciel malveillant Pegasus. Parmi les plus connus, Avner Netanyahou, l'un des fils de l'ancien Premier ministre. Un piratage au sein même du pays, à grande échelle et sans autorisation. La nouvelle fait l'effet d'un séisme ici en Israël. Le Premier ministre Naftali Bennett, dans un communiqué, a promis que cela ne resterait pas sans réponse, que cela était inadmissible dans une démocratie. Mais le gouvernement ne critique pas pour autant Pegasus, ce fameux logiciel espion vendu par la firme israélienne NSO. Ce sont des outils importants dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, mais ils ne sont pas destinés à être utilisés contre le public israélien, ajoute-t-il. Depuis l'été dernier, pourtant, ce programme est au cœur d'un scandale mondial. Dans la foulée, le ministre de la Sécurité publique a donc appelé à la création d'une commission d'enquête gouvernementale pour faire la lumière sur cette affaire. NSO, de son côté, n'a ni démenti ni affirmé avoir vendu le logiciel à la police israélienne. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau reste toujours en retrait, mais la situation se tend à Ottawa. Le maire a décrété l'état d'urgence, alors que des camionneurs paralysent le centre de la ville depuis 10 jours pour dénoncer des mesures sanitaires contre le Covid. En France, inspirés par les routiers canadiens, plusieurs groupes s'organisent aussi sur les réseaux sociaux, donnent itinéraires et dates cette semaine pour rouler et se retrouver à Paris vendredi afin d'exprimer leur opposition au pass vaccinal. Quand la lutte contre la désinformation se heurte à l'appétit des grandes plateformes, c'est l'histoire que raconte la brouille entre Neil Young et Spotify. Le rocker canadien a retiré toute sa musique du catalogue parce qu'il ne voulait pas apparaître aux côtés du podcast Joe Rogan, anti-vax, écouté tout de même par 11 millions de personnes chaque jour. Depuis, Spotify se débat pour trouver une position cohérente. Bonsoir Thibault Lefer.
Bonsoir Hélène.
Ce week-end finalement, la plateforme a retiré 70 épisodes du controversé podcast.
Oui, 70 ce week-end et désormais 113 épisodes supprimés sur près de 1800 de la Joe Rogan Experience. Des émissions de près de 3 heures où Joe Rogan compare par exemple une assemblée de personnes de couleur noire à la planète des singes. Il utilise aussi à plusieurs reprises le terme nègre, nigger en anglais. Spotify fait donc le ménage. Joe Rogan, lui, s'est excusé, pas sûr cependant que cela suffise pour éteindre la polémique, d'autant plus que l'épisode controversé sur le Covid, le 1757 est toujours en ligne.
Donc ça, c'est pour tenter d'éteindre l'incendie, Thibault, mais sur le fond, Spotify n'envisage pas une seconde de tirer un trait sur l'audience de Joe Rogan.
Oui, c'est comme souvent une histoire d'audience et de gros sous. The Joe Rogan Experience est l'émission la plus écoutée au monde, 190 millions de téléchargements mensuels. Le ticket d'entrée pour les annonceurs se monnaie autour de 900 000 euros la pub et Spotify s'est offert il y a 2 ans l'exclusivité de la diffusion de l'émission pour 100 millions de dollars. Spotify a donc fait le choix du podcast sur la musique et c'est sans doute l'air du temps, mais Neil Young et ses 6 millions d'écoutes par mois ne pèsent désormais plus grand-chose face à l'audience de Joe Rogan.
Explication signée Thibault Lefèvre.
Les panaches de fumée des deux grandes cheminées de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine sont-ils un danger pour les riverains?
Des niveaux de dioxine particulièrement élevés ou en tout cas été relevés autour de l'incinérateur, le plus gros d'Europe qui traite les déchets d'une quinzaine de communes d'Île-de-France, 730 000 tonnes d'ordures par an. Et l'étude commandée par le collectif écologique 3R traduit une concentration de polluants assez inquiétante autour de l'usine, Sandy Dauphin.
Les chercheurs néerlandais ont notamment mené leur étude dans 8 poulaillers de particuliers et d'associations dans un rayon de 3 km autour de l'incinérateur. Les œufs ont été utilisés comme marqueurs parce qu'ils concentrent des polluants organiques persistants comme les dioxines dans leur partie grasse. Anne-Laure Wittmann, cofondatrice du collectif associatif RR, qui a commandé cette étude.
Dans certains jaunes d'œufs en particulier, on a relevé donc une teneur en dioxines qui dépasse de plus de 4 fois le seuil qui est inscrit au règlement européen sur la sécurité des aliments. En clair, si les œufs avaient été produits pour être mis sur le marché, ils devraient immédiatement en être retirés parce qu'ils ne sont pas propres à la consommation humaine.
Ces niveaux élevés de dioxines ne sont pas forcément attribuables à l'incinérateur, répond l'Agence métropolitaine des déchets ménagers, le SICTOM, qui gère l'incinérateur. Son directeur général, Denis Pénouel, dénonce des biais scientifiques dans l'étude.
C'est pas forcément l'incinérateur. En tout cas, le lien n'est pas avéré. Ça peut être toute forme de brûlage, des brûlages de câbles, de végétaux avec des déchets dessus, dans des cas extrêmes, des brûlages de voitures, toute forme de combustion qui peuvent exister dans des secteurs aussi denses que l'agglomération parisienne. Aujourd'hui, il n'y a aucunement danger d'être riverain de cet incinérateur. Toutes les études de risque sanitaire le montrent.
Difficile d'établir avec certitude l'origine des dioxines, reconnaît ToxicoWatch, l'organisme qui a réalisé l'étude, mais son analyse montre la présence de profils de dioxines typique de l'incinération des déchets.
Sandy Dauphin, Patrick Balkany est retourné en prison, incarcéré à Fleury-Mérogis parce qu'il n'a pas respecté les obligations de son bracelet électronique. Trajet inverse pour Claude Guéant qui bénéficie d'une libération conditionnelle après 2 mois en détention. C'est le sujet du téléphone sonne hein, dans quelques minutes. Quelle alternative à l'EHPAD quand une mauvaise chute ou une maladie rend impossible le maintien seul à domicile? Y a-t-il d'autres solutions? L'association AGV propose une sorte de colocation encadrée à Roncé dans la Manche, reportage Katia Lotrou.
On dirait une maison comme une autre, moderne, aux couleurs pastel avec petit jardin.
Entrez.
C'est Elsa Quincy, référente d'AGV pour la Normandie, qui nous fait la visite.
Vous avez un grand espace de vie, à 80 mètres carrés.
Salon, salle à manger, cuisine.
Pour les moments en commun, les repas partagés, les animations. Chacun a sa chambre, au moins 30 mètres carrés, avec sa salle de bain.
Et son petit nom sur la porte. Dont celui de Marie-Thérèse, 90 ans.
Les meubles, c'est à vous?
Oui.
On peut meubler comme on veut.
Et la journée, comment vous vous occupez?
Je vais dehors quand il fait beau, mais tout de suite, il fait pas souvent beau. D'habitude, je fais 3 tours, mais là, j'en ai fait que 2.
Vous allez discuter avec les autres aussi?
Ça dépend. Des fois, ils ont des occupations aussi.
Médecins et infirmières viennent de l'extérieur, et à l'intérieur, c'est comme à la maison. Elsa Quincy d'AGV.
Ils vont, ils viennent, ils prennent dans le frigo s'ils ont envie.
Là, je vois le monsieur est allé chercher son courrier.
Exactement.
Vous préférez être ici qu'en maison de retraite?
Bah oui.
Pourquoi?
Parce qu'on est bien.
Bricolage, jardinage, activités manuelles, les résidents participent, comme au repas par exemple.
Qu'est-ce que vous avez fait là?
Si, c'est un gâteau aux pommes.
Sonia est l'une des 6 auxiliaires de vie, 6 pour 16 résidents sur 2 maisons, le rêve.
J'ai travaillé 10 ans en EHPAD. La différence, c'est qu'on a plus de temps avec la personne âgée. Le travail est 1000 fois plus intéressant.
Et il y a le prix aussi qui est intéressant. 1600 euros en moyenne avec les aides. La coloc entre seniors, une autre façon de bien vieillir.
Un reportage signé France Bleu Cotentin. Et aux Jeux Olympiques de Pékin, l'argent a fait le bonheur d'Anaïs Chevalier-Boucher. 2 fois d'ailleurs. Après le relais mixte samedi, elle décroche aujourd'hui la 2e place de l'épreuve individuelle. Une performance pour l'Isèroise revenue sur le circuit il y a 2 ans, après avoir donné naissance à une fille. Jérôme Val à Jean Diacou.
2e place.
C'est une petite musique qui commence à devenir une habitude pour Anaïs Chevalier-Boucher. 2 médailles d'argent en 2 courses et en 2 jours, pas encore descendue de son nuage en sortant du podium.
Ça va prendre un peu de temps là pour l'instant, j'essaie de profiter de tous ces moments qui sont quand même assez uniques. Pour l'instant je plane un peu, comme depuis le début de la journée en fait, je sais pas, il y avait quelque chose.
Anaïs Chevalier-Boucher a récité son biathlon, elle a même réalisé une course parfaite jusqu'à son 20e tir, raté et qui lui coûte le titre olympique.
Je me suis donné les chances de jouer la gagne sur le dernier tir, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Et puis voilà, je ne vais pas cracher sur un titre de vice-championne olympique. Je vais la prendre quand même, celle-là.
C'est aussi la médaille du mérite. En 2018, elle décide de faire une pause maternité, naissance de sa fille, retour sur le circuit au plus haut. Son entraîneur Frédéric Jean est admiratif.
Je repense en fait à tout le travail qu'elle a réalisé, tous les sacrifices qu'elle a fait pour aujourd'hui aller chercher sa première médaille individuelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions de la part de tout le monde, je pense. Et puis elle aussi. Je suis père de famille aussi, je sais ce que c'est de faire des sacrifices bénéfice comme ça. Je pense que c'est pour ça aussi que ça me touche beaucoup.
L'ambition de l'Iséroise était de décrocher 2 médailles sur ces Jeux. L'objectif est déjà rempli.
Et puis il y a eu un autre podium aujourd'hui. Johan Claret en argent dans la discipline reine du ski alpin à 41 ans. Il devient quand même le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire dans sa discipline.
Eh bien bravo à lui. Merci beaucoup Hélène Filly. On se retrouve demain. La suite c'est le téléphone sonne. Vous le disiez, de révélation en révélation. C'est vrai que laisser son père ou sa mère en EHPAD, ça fait peur. Il existe une alternative. Laquelle? Est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce que ce sont les petites structures? Est-ce que ce sont les colocs, par exemple? Comme on vient de l'entendre, c'est notre sujet de ce soir et c'est à vous au 01 45 24 7000. Vous êtes déjà très nombreux et c'est tant mieux, juste après la météo.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Élodie Calac, gris au nord de la Loire demain.
Oui, du nord-ouest jusqu'au nord de la Seine, au bassin parisien, à l'Orléanais et au nord de l'Alsace, ce sera gris, humide hein, toute la journée. Des Charentes aux plaines du sud-ouest, on aura pas mal de nuages bas ou de brouillard le matin, mais ils se morcelleront, le soleil reviendra l'après-midi. Et puis partout ailleurs, du soleil dès le matin, avec un peu moins de vent en Méditerranée, hein, des rafales jusqu'à 50 km/h, encore 80 quand même le matin pour le Mistral.
Et sinon, retour des gelées le matin.
Oui, sur l'est, sur le sud, moins 5 à 2 degrés attendus, contre 6 à 9 degrés sous les nuages du nord-ouest au nord de la Seine. Et puis l'après-midi, il fera 8 degrés à Metz, 10 à Paris, 11 à Rennes, Bourges, Montauban et Lyon, 12 degrés du côté de Lille, de Caen ou de Mulhouse, 13 à Bordeaux et 17 degrés pour Marseille ou pour Montpellier.
Et merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.